Je vous invite à trouver l'évangile de Luc, chapitre 9. L'évangile de Luc, chapitre 9. Et nous allons commencer notre lecture à partir du verset 17. Luc 9, 17. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit, donc dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Ah. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Ah, ok. Donc, 57, c'est le verset. Ça vous donne plus de temps pour trouver. Luc 9, 57. Désolé. On reprend. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit, donc à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, ou mets-toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur. » Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Suivre Jésus, suis-moi. Jésus s'adresse à toi, personnellement, et tout son appel se résume en ces mots. Suis-moi. Il ne dit pas simplement « viens à l'église », parce qu'il y a des gens à l'église, cette église ce matin, qui ne suivent pas Jésus, n'est-ce pas? Jésus ne dit pas « chante » ou « prie », parce qu'il y a des gens qui chantent et prient, et ils ne sont pas en train de suivre Jésus. Mais Jésus dit « suis-moi ». C'est très personnel. Et nous avons ce matin devant nous trois personnes qui voulaient, semble-t-il, suivre Jésus, mais Jésus a refusé qu'ils le suivent. Au moins dans l'état où ils étaient. Nous voulons comprendre pourquoi ces hommes ont dérapé. Première question. Ces trois personnes qu'ont-ils en commun? Vous avez remarqué qu'ils avaient quelque chose en commun, à part le fait d'être avec Jésus sur le chemin. Les trois étaient comme toi, et moi aujourd'hui, face à la plus grande question de la vie, qui est-ce que vous, est-ce que toi, est-ce que tu vas suivre Jésus? Deuxièmement, les trois sont refusés par Jésus. Tous les trois, ils ont cela en commun. ils sont très différents. Ils reçoivent des réponses différentes de la part de Jésus, mais ceci est en commun. Jésus n'accepte pas qu'ils les suivent. Chers amis, Jésus n'est pas quelqu'un qui est en train de recruter. Le recruteur, il est content. Qui vienne, on dit « Ah, super, je l'accepte ». Le Seigneur Jésus n'accepte pas tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils disent « Je te suivrai ». Ah, loin de là. Tous ceux qui viennent vraiment à lui, selon ses termes, il ne les mettrait pas dehors. Mais il y en a qui viennent à lui, pas selon ses termes. Donc, cela nous montre, ces trois hommes nous montrent que vous ne pouvez pas suivre Jésus selon vos pensées, vos termes, vos conditions. Jésus vous dira tout simplement non. Ce n'est pas non plus vos sentiments, vos idées qui déterminent si vous êtes chrétien. Voilà un enfant, une jeune personne qui dit « Moi, je suis chrétien !» Un adulte « Moi, je suis Jésus !» Peut-être, mais c'est seul Jésus qui peut le dire. Ah. C'est quoi? Ah, c'est Anaël, oui, d'accord, ok. Donc, toutes ces trois personnes avaient enfin un trait en commun, c'est qu'ils avaient le même problème exactement, mais dans différentes formes. Vous avez constaté le problème? Tous les trois voulaient suivre Jésus, justement, selon leurs termes et selon leurs pensées. « Je te suivrai, Seigneur, mais d'abord... » C'est-à-dire que le péché par essence, c'est ce fait de vouloir dire à Jésus « Je te suivrai, mais selon mes limites. » Jusque-là et pas plus loin, n'est-ce pas? Alors que suivre Jésus en réalité... c'est capituler. N'est-ce pas? Suivre Jésus, c'est capituler. C'est toi qui me dis ce que ça veut dire te suivre. C'est toi qui me dis jusqu'où je dois aller, quand et comment. C'est toi maintenant, le Seigneur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont comme ces trois. Beaucoup! Dans les églises, en dehors des églises. C'est notre histoire. Nous sommes dans cette histoire-là. Et donc, il nous convient d'écouter Jésus quand il parle à ces trois personnes. Maintenant, avant de les regarder, on va les regarder. Mais une chose de plus... nous avons vu leurs points communs, mais quelles sont les différences entre les trois? C'est toujours bien de reculer un peu, de regarder la scène entière avant de regarder les détails. Et nous voyons que deux des trois s'offrent pour suivre Jésus. C'est leur initiative, « Je te suivrai, Seigneur !» Et le deuxième, c'est Jésus plutôt qui dit « Suis-moi !» Ça, c'est une différence. Mais la plus grande différence, nous ne pouvons le voir qu'en constatant que Jésus donne à chacun des trois non seulement une réponse différente, mais un type de réponse différente. Il y a trois réponses différentes, mais il y a trois sortes de réponses différentes. Qu'est-ce que tu veux dire, David? Je veux dire qu'au premier, il donne simplement une information, au deuxième un ordre, et au troisième un avertissement. Solennel. C'est très différent, ça. Le premier, une information, parce que son problème, c'est qu'il a une ignorance, il est superficiel. Je te suivrai partout, Seigneur! Il ne sait pas ce que ça veut dire, suivre Jésus. Jésus lui dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit à poser la tête. faut que tu apprennes ce que ça va vouloir dire, suivre-moi. Le deuxième, qui essaie de dire, laisse-moi d'abord ensevelir mon père, il reçoit un ordre. Il dit, laisse, un ordre catégorique, laisse les morts enterrer les morts. Toi, va et proclamez le royaume de Dieu. On va voir pourquoi il a besoin plutôt d'un ordre. Le troisième reçoit un avertissement solennel. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon, n'est pas apte au royaume de Dieu. Un avertissement très solennel. Tu n'es pas dans le royaume et tu vas périr si tu restes avec l'attitude que tu as envers moi en ce moment. Pourquoi a-t-il besoin non pas d'une information ni d'un ordre, mais d'un avertissement? On verra. Ok, vous êtes prêts? On va regarder les trois rapidement. Premier, le premier homme. Alors, verset 57 encore, ils étaient en chemin et quelqu'un lui dit, je te suivrai partout où tu iras. Une étonnante disponibilité, n'est-ce pas? Cet homme, pour autant qu'il sache, il est sincère. Pour autant qu'il sache, et c'est là le problème, il sait très peu. S'il avait su davantage, il se serait tu. Il n'aurait pas proclamé autant. Je te suivrai partout où tu iras. Ah, si seulement tu avais su ce que ça veut dire. Tu n'aurais pas parlé si tôt. Nous rencontrons beaucoup de gens qui sont très fort pour déclarer leur adhérence, leur allégeance à Jésus-Christ. Très fort. Ils sont prêts à se tenir debout, à venir à l'estrade, à signer une carte pour déclarer que je suis engagé à tomber, à se relever ou à faire quoi que ce soit pour déclarer « je te suivrai partout ». Et surtout dans les moments émotionnel, un moment d'enthousiasme emporté. N'est-ce pas? Et c'est un peu cette âme. Je te suivrai partout! Mais le Seigneur n'est pas impressionné. Un des problèmes, c'est que nos résolutions ne sont pas l'Évangile. L'Évangile, c'est pas ce que tu fais pour Jésus. Je te suivrai partout, je t'offre. L'Évangile, c'est pas ce que tu offres à Jésus. C'est ce que Jésus t'offre en venant, en mourant, en prenant ta place, en t'offrant sa justice, son expiation pour te sauver. Donc, écoutez bien. La première chose, si tu veux devenir disciple, si tu veux suivre Jésus, c'est pas ta résolution. C'est ta foi dans ce que lui l'a fait que tu ne peux pas faire. Je suis gêné par ces trois hommes. Je suis gêné parce que je ne vois nulle part dans les trois une quelconque attitude de contrition. Vous savez ce que c'est? De tristesse. Parce que l'Évangile t'appelle à la foi. Et la foi, c'est d'abord voir ma ruine, ma culpabilité, mon tort, mes travers, devant le Dieu qui m'a fait pour lui-même. C'est voir tout ça, le croire, accepter mon état et voir que je ne peux pas me sauver. J'ai besoin d'un sauveur. Ma première réponse à Jésus n'est pas « je te suivrai, mais sauve-moi ». C'est très différent. C'est « viens à mon secours, fais pour moi ce que je ne peux pas faire ». N'est-ce pas? C'est comme le publicain dans la parabole de Jésus, « Aie pitié de moi, le pécheur. » Et après cela, viennent les résolutions. « Je te suivrai. » N'est-ce pas? L'autre problème que je vois, c'est que les gens qui sont très rapides à afficher un engagement absolu, « Je te suivrai partout où tu iras », sont souvent des gens qui ont beaucoup de confiance en même. Cet homme ne dit pas une prière à Jésus, aide-moi à te suivre comme il faut, parce que je suis faible. Non, il est confiant qu'il va pouvoir le faire. Je te suivrai partout où tu vas. Et vous savez ce qu'on appelle quelqu'un qui se confie dans son propre cœur? Est-ce qu'on l'appelle un converti? Non, la Bible l'appelle un insensé. Donc, nous voyons que cet homme a besoin d'une instruction qui le rend plus sobre, plus réfléchi, moins superficiel. Et Jésus le donne dans ses mots, verset 58. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, moi, il parle de lui-même, le Fils de l'homme n'a pas où opposer sa tête. » Quel est l'effet de ça? Si c'était toi qui dis, « Je te suivrai partout !» Et le Seigneur dit, « J'ai aucun endroit, même les animaux sont mieux lotis que moi. » C'est une manière de dire, « Tu ne comprends pas ce que ça veut dire, me suivre. Je vais t'en informer. Veux-tu vraiment me suivre? Parce que me suivre veut dire quoi? Partager mon lot. N'est-ce pas? Est-ce que tu suis Jésus? Est-ce que vous suivez Jésus? Ça veut dire que vous embrassez sa condition dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas d'endroit pour poser la tête? Parce que personne ne veut de lui. Il est un homme contre le monde. Et le monde est contre lui. Il a une petite bande de disciples, mais à part cela, ce qu'il dit, ce qu'il enseigne, ce qu'il représente, est le contraire de ce que fait et de ce que pense le monde. Et c'est vrai aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Nous sommes 2000 ans plus loin. Et suivre Jésus-Christ véritablement, c'est te mettre complètement en porte-à-faux avec tes voisins, les membres de ta famille et le monde entier. Je te suivrai partout où tu veux que j'aille. Ah, alors c'est un chemin de la croix. Vous voulez savoir ce que veut dire l'appel à être disciple de Jésus-Christ? Cet appel peut se résumer en ces mots. Venez et mourrez. Je suis complètement franc. Et depuis presque 40 ans, je suis sur un chemin où j'essaie vraiment pas très bien, j'avoue, à mourir à moi-même. Et à faire ce qu'il veut. Mais véritablement, et vous pouvez dire le même si vous êtes chrétien, vous pouvez montrer du doigt des endroits où vous avez perdu. Vous avez perdu des amis. J'ai eu un de mes frères cet été qui m'a lancé une phrase cuisante pour me faire comprendre qu'il ne voulait pas du tout de mon point de vue sur la vie. De ma foi chrétienne. Ça fait partie du lot. Et ça vaut vraiment la peine. Et bien sûr, je prie qu'il change d'avis un jour. Mais s'il ne change jamais d'avis, je suis là-dedans pour du bien. On va arrêter de considérer cet homme. Mais rappelons-nous qu'il y a des gens, c'est peut-être toi, qui ont besoin de ce message de Jésus. Toi qui dis « Je te suivrai », Jésus te dit « Arrête, arrête ça !» Et réfléchis sur ça, sur ce que ça veut vraiment dire, me suivre. Écoute. Deuxième personne. Celui qui veut suivre Jésus en tant que deuxième priorité de sa vie. Nous lisons dans le verset 19, il dit à un autre, « Suis-moi !» Et il répondit, il ne répond pas, « Je te suivrai !» Il dit tout de suite, « Permets-moi d'aller d'abord, ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir le mort et toi va annoncer le royaume de Dieu. Nous voyons que cet homme est différent du premier. Il comprend l'engagement à Jésus. Il comprend tellement bien qu'il veut repousser ça. Laisse-moi d'abord, n'est-ce pas? Parce qu'il comprend. Donc il a un problème différent. Et il y a des gens qui ont un problème différent, peut-être c'est vous. Qu'est-ce que ça veut dire, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père? Est-ce que ça veut dire que son papa est mort et que les obsèques ont lieu demain? Certainement pas. Si son père était mort, il ne serait pas là sur le chemin avec Jésus. C'est une phrase idiomatique, on l'a trouvée souvent utilisée dans les documents d'antiquité de cette époque, dans le monde des juifs. Quand on dit « permets-moi d'ensevelir mon père », ça veut dire « permets-moi de prendre soin de mon père jusqu'à sa mort ». Ok? Donc le papa n'est pas mort, mais laisse-moi rester auprès de lui jusqu'à son... Après la mort de mon père, je serai libre de mon lien familial et je viendrai te suivre. C'est-à-dire, je te suivrai Jésus, mais c'est d'abord ma famille, mes liens familiaux, c'est ensuite Jésus. Je te suivrai en tant que deuxième priorité. Reste là et une fois que mon autre priorité est finie, je viendrai vers toi. Et il y a tant de gens qui font ça. Tant de gens dans le monde qui ont exactement cette attitude. Par exemple, en témoignant dans les universités, j'ai plus d'une fois entendu un étudiant dans sa chambre qui me dit « Oui, je suivrai Jésus, mais après mes études. Je suis trop occupé. Je n'ai pas un moment pour penser à ça après mes études. » Ou d'autres qui disent, laissez-moi d'abord m'amuser un peu dans la vie. Et ensuite, je suivrai Jésus. L'amusement mondain, plus important que le Fils de Dieu et la vraie joie qu'il donne. Ou bien, voilà une personne qui est peut-être dans l'Église depuis longtemps, qui dit, je servirai le Seigneur vraiment après ma retraite. Je fais le minimum pour le moment, mais je vais vraiment m'engager après ma retraite. Comment est-ce que Jésus répond? Comment est-ce que Jésus voit une personne comme ça? Nous le voyons dans ces versets. Jésus lui répond et dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Il lui dit qu'il a besoin de comprendre et croire quelque chose au sujet du monde et du royaume de Dieu. Au sujet du monde, il a besoin de comprendre et de croire que le monde est mort. Le monde est mort spirituellement, en train de périr, ça va disparaître, c'est voué à la condamnation. Chers amis, tout ce que vous voyez ici qui n'est pas sauvé par Jésus-Christ va périr dans le feu. Laissez les morts enterrir le mort. Il veut dire laissez ceux qui sont morts spirituellement, les membres de ta famille qui ne veulent pas revenir au Seigneur, laissez-les, ils sont capables d'enterrer quelqu'un, de prendre soin de ton papa jusqu'à ce qu'il meure. Mais ils ne sont pas capables de faire ce que tu peux faire parce que tu crois. Ils ne sont pas capables de répondre à mon appel et d'aller annoncer le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, comprenez-le, le monde est mort, le royaume de Dieu est le seul espoir pour les âmes. Rien ne compte comme ça, rien. Tu vas rentrer chez ton père et lui donner la première priorité et tu vas perdre toi-même ce que tu aurais pu avoir en me mettant dans la première place. Un de mes professeurs, quand j'ai fini mes études universitaires dans l'enseignement secondaire des mathématiques, il m'a pris à part un jour à mon grand étonnement. Il avait entendu dire que j'allais devenir un missionnaire, que je m'étais converti à l'université. Et il m'a pris en dehors du lycée où je faisais mon practicum, mon stage. Et il a essayé de me convaincre par tous les arguments possibles de ne pas aller être un missionnaire, mais d'enseigner les maths. On a besoin des enseignants de maths aussi. Je vois que tu peux enseigner et tu peux faire beaucoup de bien. Et c'est vrai. Et si c'était mon appel, ça aurait pu être mon appel en tant que chrétien. Je l'aurais fait. On a besoin des enseignants chrétiens. Mais le Seigneur m'avait fait comprendre que je devais aller et prêcher l'Évangile en tant que vocation. Et mon raisonnement envers lui était le même que Jésus. Il y a beaucoup de gens qui peuvent enseigner les maths aux lycéens, mais qui ne peuvent pas faire ce que je vais dire, ce que je vais aller dire en Afrique. Laisse les morts enterrer des morts. Où sont tes priorités? Tu mets Jésus-Christ en deuxième place? On ne peut pas servir Jésus-Christ en deuxième place. Le troisième, celui qui a le cœur partagé et indécis. Le deuxième, c'était celui qui repousse. Il va vraiment servir, mais pas maintenant. Mais cet homme, c'est un peu différent. Nous lisons le passage. Un autre dit, verset 61, et je termine. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Ça semble être légitime. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Il est difficile de comprendre le problème ou le péché de cet homme parce que dans l'Ancien Testament, Élisée dit exactement la même chose à Élie quand Élie, le prophète, l'appelle à devenir aussi, lui, prophète à sa suite. Élisée dit, permets-moi d'aller dire au revoir à la maison. Et il est permis. Mais la différence, c'est que le Seigneur, par sa réponse, et c'est seulement par la réponse de Jésus, que ces hommes apprennent eux-mêmes ce qui est dans leur cœur. Souvent, nous ne savons pas que derrière cette phrase nous avons lancée, il y a un grand problème, un grand péché. Quand Jésus répond, il ne répond pas à la phrase, il répond au cœur de l'homme. Et il voit quelque chose dans cet homme qui n'est pas simplement le fait d'aller dire au revoir. Et il explique. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Vous voyez l'image? Voilà quelqu'un qui est embauché, qui accepte d'aller travailler et de creuser les sillons dans la terre. D'accord? Mais lorsqu'il s'y met, il regarde constamment en arrière parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse et qui prend son souci, sa pensée, plus que ce qu'il devait être en train de faire. Étant à demi dans son œuvre, il le fait mal. Il le fait terriblement mal. Il va partout. Ça ne va pas. On ne peut pas embêcher un tel homme comme ça. Enlève-toi de là. Tu n'es pas bon pour le travail du champ. Et Jésus dit que cet homme n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Alors, quel est son problème? C'est qu'il est un homme indécis, il ne s'est pas vraiment décidé s'il va suivre Jésus-Christ. Si Jésus-Christ, écoutez bien, est-ce que Jésus-Christ est ta vie, ton Seigneur, plus que toute autre chose? Il est Seigneur, il est Maître. Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est ton job? Est-ce que c'est ton argent? Le Christ vient vers toi et il dit, décidez-vous. Et il le dit par cet avertissement. Il donne cet avertissement, celui qui met la main à la charrue et se regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. C'est pas simplement une information, c'est pas simplement un ordre, c'est un avertissement très solennel que le Seigneur vous adresse si vous êtes dans ce cas. Il est en train de vous dire, si vous ne changez pas de l'attitude où vous êtes maintenant,
vous périrez. Et pourquoi est-ce que le Seigneur fait comme ça? Parce qu'il y a des gens qui sont dans un état où une information vraie ou un ordre divin ne peut pas les réveiller. Ça ne suffit pas. La seule manière de vous réveiller, que le déclic par la grâce de Dieu se fasse et vous vous déliez de ce qui vous retient, c'est de vous dire, vous allez périr éternellement. Éternellement, sans jamais cesser de souffrir dans les douleurs de l'enfer. Loin de la face de Dieu, dit l'Écriture, loin de la face de Dieu et de la gloire de sa présence. Là où le ver ne cesse de ronger et le feu ne s'éteint pas, dit la Bible. L'avertissement solennel. Toi, tu n'es pas apte au royaume de Dieu. Décide-toi, repens-toi. Oui, bien sûr. Tu peux avoir d'autres intérêts. Tu peux prendre soin de ton père. Tu peux... Mais ces choses doivent être clairement, nettement secondaires. Sinon, tu ne suis pas Jésus. Et c'est par amour que le Seigneur vous le dit. Jésus dit, je vous aime d'un amour éternel. Je me suis donné moi-même pour vous. Je suis mort sur la croix. J'ai tout donné par amour. L'amour qui doit répondre à ça, c'est un amour suprême. Jésus ne va pas venir dans ton cœur pour s'asseoir dans la plus mauvaise chaise de la maison. Jésus ne va pas venir dans ta scène pour jouer un rôle secondaire. Le Christ dit, c'est moi, ton Créateur. Toutes choses sont par moi et pour moi. Toi, tu es par moi. Sois pour moi. C'est comme ça que nous revenons au Seigneur et que tout se met en place. Toutes nos priorités trouvent leur bonne place et notre être intérieur est maintenant en harmonie. Parce que la première chose est première, ça permet à tout le reste de trouver leur juste équilibre. Et l'homme est dans la paix. Et je vous assure de tout mon cœur par la parole de Dieu que sans que le Christ soit premier, vous ne serez jamais une personne en harmonie. C'est impossible. Nous avons fini. Où est-ce que vous êtes dans cette histoire? Êtes-vous le premier homme, le deuxième, le troisième? Ou peut-être quelqu'un qui est déjà en train de suivre Christ comme il faut. Avez-vous besoin d'entendre l'information? Recevoir un ordre? Suis-moi maintenant. Ne repousse plus. Ou bien avez-vous besoin de cet avertissement? Alors quoi qu'il en soit, je vous supplie d'accepter, d'embrasser, même quand ça fait mal aujourd'hui, et vous avez l'impression que vous voulez fuir, aller loin, acceptez-le. C'est l'amour qui vous parle, c'est Christ qui vous dit, allez, suis-moi. Nous allons chanter ensemble. Je ne sais pas si nous pouvons avoir une proposition de l'Assemblée, un chant qui parle peut-être de suivre Jésus. Peut-être vous avez un chant favori à ce sujet. Que nous pouvons chanter pour répondre un peu au Seigneur.
C'est vers toi que je me tourne.
Ok. C'est quel numéro, Pierre?
Quarante-deux.
Après ce chant, je vous laisserai prier et nous terminerons ainsi notre culte. C'est vers toi que je me tourne.
Seigneur, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité.
Je vous invite librement à prier.
Oui, Seigneur notre Dieu, c'est vers toi que nous nous tournons. Et nous reconnaissons que quelquefois nous avons des problèmes pour te mettre, te donner la priorité absolue. Ô Seigneur mon Dieu, regarde dans nos cœurs et aide-nous, Seigneur, à mieux te suivre. Détourne nos regards des choses vaines qui nous attirent encore tellement. Et tourne nos regards complètement vers toi. Aide-nous à vraiment abdiquer totalement de nous-mêmes pour nous donner à toi. Nous avons besoin de toi pour faire ça, oui. Seigneur. Renouvelle notre foi, donne-nous suffisamment de foi pour aller jusqu'au bout avec toi. Amen.
Amen.
Seigneur, mon Dieu, mon Père, je suis un homme insensé dans le fond de ma personne. Je m'humilie devant toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi qui as parlé du haut du ciel et par Jésus-Christ. Seigneur, j'ai besoin de toi chaque jour, chaque heure, pour faire la priorité, pour que tu sois le premier dans ma vie. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne suis pas capable de connaître la voie, les priorités bonnes. Je te prie, Seigneur, de m'accorder ta sagesse. Ô Seigneur, sois heureux de maître de ma vie. Je veux te donner ma vie, Seigneur, parce que tu as tout donné pour moi, parce que tu m'as donné tous tes trésors, tous tes biens. Tu n'as rien refusé pour toi, pour moi, Seigneur, parce que tu as tout donné de toi. Seigneur, je veux te bénir avec mes frères et je veux te demander de te révéler encore. Ou bien ma famille et mes enfants, à chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen. Et maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que l'amour du Père qui nous attire et nous appelle et que la bénédiction du Saint-Esprit qui nous rend capables de répondre reste avec nous. Amen.